Merci. Bonjour à tous. La Coalition citoyenne santé et environnement est un regroupement de comités de citoyens, des comités de citoyens qui sont surtout des ruraux, malgré qu'il y a des organismes dans des villes qui font partie aussi de la Coalition citoyenne. On nous a demandé de vous parler un petit peu des impacts de l'investissement privé sur le territoire au niveau des méga-porcheries. Je trouve ça un petit peu drôle, l'investissement privé, parce qu'en réalité, le développement de cette industrie porcine au Québec se fait grâce aux contributions des contribuables, car avec les sommes phénoménales qui sont investies année après année par les contribuables dans cette industrie-là, c'est ce qui fait qu'elle peut se développer de cette façon aussi effarante. Dans une petite ordre de grandeur, je dois dire que chacun des Québécois que nous sommes, à tous les ans, nous déboursons chacun de nous, petits et grands, que vous en mangiez ou que vous en mangiez pas, de part 100 $ chacun. 100 $ par tête de pipe au Québec pour développer cette industrie-là. Alors, quand vous passez au comptoir des viandes, vous cherchez une côtelette, dites-vous que vous avez déjà déboursé 4 $ le kilo avant de payer une deuxième fois au comptoir. L'autre facteur qui me fait un petit peu sursauter quand on vient parler de méga-porcherie, les promoteurs de cette industrie-là, qui sont en particulier des industriels et la Fédération des producteurs de porc, nous dit que les méga-porcheries, ça n'existe pas au Québec. Ils ont peut-être raison dans un certain sens parce que ce n'est pas une usine qui est concentrée à un seul endroit. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que c'est de loin l'industrie agricole qui est la plus polluante et la plus dévastatrice d'environnement qui n'existe pas sur la planète et non seulement au Québec, parce qu'elle est tentaculaire, c'est-à-dire qu'elle est partout sur le territoire. Et que maintenant, dans des territoires où il n'y en a pas, on va en installer. Et on n'est pas parti pour s'en arrêter. Trop près?
Oui. Voilà.
Le problème n'est peut-être pas autant de la production de porc comme de la production de lisier ou d'excréments qui vient avec. Le problème est plutôt là. Dans les années 40, aux États-Unis, on a inventé cette forme de gestion des fumiers, des élevages de porc sur forme liquide. Qui en fait de loin un contaminant assez grave pour tout ce qu'il y a d'eau, de sol, d'air et de destruction. En fait, on ajoute aux excréments des porcs, aux urines ou aux fesses de l'eau qu'on entrepose dans des lagunes ou dans des fosses. Il se développe sans air, en anaérobie, en fin de compte, un lot de produits chimiques à l'intérieur de ces fosses-là. Il se développe au-delà de 400 agents chimiques et au-delà de 150 agents gazeux. On produit au Québec trois fois la population de déjection qu'une population du Québec pourrait faire, c'est-à-dire que c'est des déjections de 21 millions d'habitants qui n'est pas nécessairement traité ni passé dans un système de traitement ou dans un champ d'épuration, mais qui est plutôt étendu dans la nature. On a commencé à avoir des problèmes avec le lisier dans les années 60 au Québec, ça ne date pas d'hier, et la lutte citoyenne a aussi commencé à cette époque-là. On a vu dans les années 70 aussi des cours d'eau drôlement contaminés où on a trouvé les poissons qui flottaient sur le dos dans la rivière Lachigan en particulier. Et à partir de là, on s'est aperçu qu'on commençait à avoir de sérieux problèmes. Les citoyens sont montés aux barricades, on a dénoncé ce fait-là, on a voulu régler le problème avec un système de traitement et depuis ce temps-là qu'on essaie de trouver des solutions au problème de lisier qui devient de plus en plus en surplus. On n'a pas trouvé de solution encore, sinon que d'en faire plus, en pensant qu'en en rajoutant plus, qu'on allait régler le problème. On a continué à augmenter la production porcine de façon effarante, du fait que dans les années 60, on en produisait 3 millions de porcs d'abattage, et aujourd'hui, on est rendu tout près de 8 millions. Et pour ce faire, ces quantités de lisier-là, il a fallu qu'on les étende sur des sols. On a manqué de sol rapidement, alors à ce moment-là, ben, on a déboisé. Et on déboise encore. Dans le Haut-Richelieu en particulier, dernièrement, il est sorti une autre étude où on déboiserait un terrain de football par jour pour faire des étendues d'épandage. Malgré qu'on a déboisé, qu'on a trouvé des terres pour épandre, on est toujours en surplus. On a deux fois trop de lisier pour ce que les terres sont capables d'absorber et des plantes aussi de les absorber pour grandir. Le problème est aussi du fait qu'on cultive des étendues phénoménales de maïs. Et la culture de maïs se fait à sol nu. C'est là-dessus qu'on va épandre de l'élisier, des herbicides, les insecticides qui vont dans cette culture-là. Et comme la quantité qu'on épand est tellement grande, on a façonné les terres de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau sur le sol. C'est-à-dire qu'on a drainé les terres, des drains souterrains. On a canalisé des cours d'eau qu'on a redressés, on a aplani le terrain de façon à ce que lorsqu'il y a un coup d'eau, des averses abondantes, que tout ça puisse se retirer très rapidement des sols et qu'on puisse y retourner travailler avec la machinerie. Alors, vous comprendrez que si l'eau s'évacue très rapidement des sols, ben, ils vont prendre le fossé et le cours d'eau. Et un des impacts les plus importants, tant qu'à moi, de cette dispersion de lisier dans la nature, c'est la contamination de notre source d'eau potable. Il faut savoir que 80% de la population du Québec puise son eau potable dans les eaux de surface, c'est-à-dire dans les cours d'eau. Et que la population où se concentre la population du Québec se concentre aussi la production du porc. En Montérégie en particulier, où on produit 40 % de toute la production du porc au Québec, c'est là aussi où on retrouve la plus grande population du Québec. À titre d'exemple, la rivière Yamaskur, qui est de loin la plus polluée au Québec, on a eu de la misère à trouver, les biologistes qui ont fait des études ont eu de la misère à un moment donné à trouver des grenouilles qui s'apparentaient un petit peu à une grenouille et que dans certains cours d'eau, la Chibouette ou la rivière David en particulier, il n'y avait plus de grenouilles là, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien qui vive. C'était plutôt un égout à ciel ouvert qu'on avait. On s'est aperçu dans plusieurs études que des biologistes ont faites au niveau des grenouilles qu'à un moment donné, que le système reproducteur de ces grenouilles-là était drôlement affecté et que les gens qui puisent l'eau potable, en tout cas l'eau domestique, potable est un grand mot, à la prise d'eau de Saint-Hyacinthe, on remarque, et la direction publique de santé publique l'a fait remarquer à plusieurs reprises, que les gens de la région de Saint-Hyacinthe sont beaucoup plus affectés par des maux intestinaux dus à la mauvaise qualité de l'eau. On puise l'eau dans la rivière Yamaska, on va la passer au chlore pour en éliminer les bactéries, sauf que l'effet du chlore amène on produit par le contact du chlore avec les matières vivantes, les bactéries qu'on a dans l'eau, un autre produit chimique qui, lui, devient un peu cancérigène. Il faut dire aussi que dans l'eau qu'utilisent les gens, on retrouve aussi une panoplie de produits chimiques tels des pesticides et des herbicides qu'on utilise en très grande quantité dans les cultures de maïs et de céréales. Alors, on peut dire que les gens, de façon générale, au Québec, dans chaque fois qu'on consomme de l'eau, on absorbe un peu de ces herbicides-là puis ces produits chimiques-là qui viennent nous contaminer. Il y a aussi, dans les milieux ruraux, où comme chez moi, j'ai un puits qui est un puits privé, qui est un puits artésien, qu'on dit, où... là aussi, il y a plusieurs gens qui ont vu leur puits d'eau potable être contaminé par les phosphores qui viennent justement de ces lisiers-là et des produits chimiques. À la santé publique, on estime qu'il y a environ 1,5 million d'habitants au Québec qui boivent de l'eau à leur risque et péril parce que dans les réseaux d'aqueduc qu'on a, les petits réseaux de moins de 5000 habitants, les mesures sont beaucoup plus légères, si vous voulez, que dans les grands milieux urbains. c'est-à-dire qu'on va faire des tests au niveau des coliformes et des bactéries dans l'eau, mais on n'ira pas voir si le taux de contamination des phosphores, des nitrates ou des herbicides ou des produits chimiques, on ne va pas vérifier ce taux-là. Alors, il y a un risque extrêmement important là, et puis c'est les directeurs de la santé publique qui ont sonné l'alarme à plusieurs reprises. Une déforestation effrénée, une détérioration des milieux humides. La forêt est une éponge. La forêt a une rétention d'eau extraordinaire. Elle est là, notre source d'eau potable. Dans les bassins d'eau qui sont là, dans les écosystèmes qui l'eau filtre tranquillement dans le sol et se rend dans la nappe phréatique. Et cette eau-là qu'on va puiser souterrainement et puis qui surtout aussi finalement dans les cours d'eau. On détruit la forêt pour en faire des surfaces d'épandage de lisier, pour en semer du maïs. On draine rapidement et sortir l'eau. En fait, c'est une désertification accélérée qui se produit ici dans nos régions. Le fait d'utiliser des masses de produits chimiques et aussi d'engrais chimiques a pour effet de minéraliser les sols et de les rendre à peu près infertiles. Et du fait des doses massives de lisier qu'on y incorpore, on vient débalancer la structure du sol, qui devient finalement plus qu'un simple support pour les plantes, et puis qu'il n'y a plus de matière organique pour nourrir les plantes à cet effet-là. Il y a un autre effet qui est assez important dans ce niveau-là. On parle toujours de pollution, au niveau de la pollution de l'air. Il est évident que l'agriculture dégage, on a parlé beaucoup dernièrement des gaz à effet de serre, on peut parler que 20% vient de l'agriculture industrielle. On doit dire que le fait de passer d'une gestion solide des fumiers, c'est-à-dire qu'autrefois, on élevait les animaux sur de la paille, des copeaux de bois. Moi, quand j'étais plus jeune, on allait au Moulin-Cy récupérer les copeaux de bois du Moulin-Cy, puis c'est là-dessus qu'on faisait l'élevage des porcs, des poules, des moutons qu'il y avait chez la ferme des grands-parents. On a éliminé ça de cette façon-là. Il y a une centaine de producteurs au Québec aujourd'hui qui font une production sur litière. Le fait de passer de la gestion solide à la gestion liquide des lisiers, on multiplie par deux la charge d'odeur. Et on estime au ministère de l'Environnement comme à celui de la Santé publique que depuis 1960, on aurait multiplié la charge d'odeur de 225 fois avec les lisiers de porc. Qui dit charge d'odeur dit contaminant atmosphérique parce que ce sont des gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère, qui sont des sulfures d'hydrogène, des gaz ammoniacales, pour ne nommer que ceux-là, et que le sulfure d'hydrogène, en concentration de 1000 parties par million, 5 secondes, une respiration, et vous êtes mort. Il y a des agriculteurs ou des travailleurs dans les porcheries qui en sont affectés à tous les ans et qui en meurent. On a vu des gens aller dans des fosses à lisier et puis en crever tout simplement à cause des gaz qui sont là-dedans. On en a entendu parler amplement. Il y a une contamination aussi au niveau de la pollution qu'on ne parle pas beaucoup, qui est la pollution des aliments. Les céréales qu'on cultive sur ces champs-là, finalement, sont contaminées aussi par toutes ces lisiers-là, ces toxines-là, sont absorbées par les plantes. Les produits chimiques aussi qu'on utilise sont absorbés par ces plantes-là. Et c'est ces céréales-là qu'on donne en alimentation aux animaux, sans parler des OGM en particulier. On utilise énormément aussi d'antibiotiques dans ces élevages de concentration-là, où les animaux sont embarqués les uns sur les autres dans des conditions effroyables, sont les premiers, finalement, à respirer ces gaz-là. Ils n'en crèvent pas parce qu'on les tient sous antibiotiques assez fortement. Et par ces temps ici, il y a une espèce de maladie qui s'appelle le circovirus, qui est due à ce qu'on a poussé trop fortement sur la machine, c'est-à-dire qu'on sève les porcelets beaucoup trop tôt qu'on le faisait avant. Donc, un stress accru chez la bête qui devient malade et puis qu'on en perd quelques-uns. Ce qui fait en sorte que la viande qui en est sortie de cette bête-là, d'une certaine façon, est contaminée et polluée par la méthode d'élevage qu'on utilise. Les gaz que respirent les animaux, les aliments qu'on leur donne, sans parler des farines animales, les farines carnées. Les farines animales, ça vient de cadavres d'animaux qui sont morts malades
qu'on fait cuire pour en faire une farine, qu'on incorpore au moulin et qu'on alimente les porcs, qu'on alimente les poulets, qu'on alimente les bœufs avec ça dans une certaine proportion, et ainsi de suite. Vos chats, vos chiens sont alimentés aussi avec ces farines animales-là. On a beau nous dire qu'on ne l'utilise pas, c'est une fausseté totale. Il y en a quotidiennement dans les rations de moulets ou d'aliments pour nos animaux. Une petite parenthèse, lorsqu'on vous parle de... Il me reste 5 minutes, je vais vouloir le faire très rapidement. Lorsqu'on vous parle de veau de lait en particulier, les ateliers de veau de lait qu'on a au Québec, il n'y a pas beaucoup de lait qui rentre dans l'alimentation. Ce sont des substituts qu'on appelle et on utilise en particulier le sang d'abattoir où on en fait une moulée et qui sert de substitut laitier pour alimenter ces veaux-là, animaux qu'on dit de lait. L'autre problématique qui vient contaminer aussi et polluer, c'est le climat social dans les communautés. Le climat social, du fait qu'une porcherie vient s'installer dans les milieux, les citoyens s'y opposent. Les citoyens n'ont vraiment pas de moyens parce que la loi est faite en sorte que l'industrie s'est accaparée de tous les droits et que les citoyens ne peuvent pas, on leur demande pas leur avis, ils sont obligés de l'accepter. Un autre phénomène qui est assez important à regarder, il est faux de penser que ce sont des agriculteurs ou que ce sont des indépendants qui produisent le porc au Québec. Ce sont des compagnies, ce sont des intégrateurs et des coopératives qui font la production de masse de porc. Les agriculteurs, entre parenthèses, ne sont que les valets de cette industrie-là. Ils sont plutôt les gérants de lisier ou de fumier produits par les cochons de l'intégrateur. Alors, la production passe de plus en plus à l'industrie et ceux qu'on parle de producteurs ne sont en fait que des travailleurs qui doivent gérer les lisiers et tenter de les épandre le plus correctement sur le territoire. Et ce sont eux, ces anciens agriculteurs-là ou ces travailleurs-là du port, qui font face aux citoyens et c'est entre eux que la chicane est pognée dans les campagnes et encore dans les villes parce qu'on a des cas où la production porcine s'approche très près des villes présentement. Derrière ces gens-là se cache l'industrie, se cache l'UPA et se cache nos bons gouvernements. Je vous ai dit au début que c'était un coût effarant pour cette production-là, c'est un fait, et c'est grâce aux deniers des contribuables qu'elle peut se développer, car il n'y aurait pas personne qui pourrait produire du porc aujourd'hui au Québec et être concurrentiel, en particulier avec le porc qui peut se produire au Brésil et qui s'en vient de plus rapidement sur le marché, et encore celui qui se fait aux États-Unis. La majorité de ce qu'on produit d'une façon ou d'une autre est vendu à l'étranger et est vendu grâce aux subventions que nous, on donne, est vendu à des gens qui ont encore plus les moyens que nous de se l'acheter parce qu'au Japon, on va le vendre jusqu'à 40 $ le kilo.
Je vous dirais que finalement, on voit disparaître les fermes familiales au détriment des agriculteurs, au détriment des citoyens qui vivent dans la ruralité. On voit aussi la valeur des terres augmenter en flèche dû au besoin de plus en plus de terres pour épandre l'épandage, de là où vient le problème aussi de ceux qui voudraient s'en aller en agriculture et qui devient de plus difficile d'aller faire de l'agriculture à cause du prix des terres. Alors finalement, c'est payé chèrement, tant qu'à moi, pour se faire empoisonner et pour produire une alimentation de qualité douteuse. Voilà. Si vous avez des questions.
Alors, je vais ouvrir la séance aux questions. Vous pouvez vous approcher des micros. Et vous deux, vous pouvez monter.
Bonjour. Je suis surprise d'apprendre qu'il existe de la farine carnée. Vous prenez vos preuves?
Vous irez sur le site de l'Agence canadienne des inspections des aliments et vous allez trouver toute l'information. Il y a des substances de farine animale qui sont interdites à donner à des bovins. Oui. La chair, les os, les moelles épinières. Sauf que les graisses et les gélatines sont autorisées. Toutes les carcasses de bœuf, de vache, de cervidés, tout ce qui est ruminant, est transformé aussi en farine animale et on peut le donner aux cochons et aux poulets. Et les farines de cochons et de poulets, on peut les donner aux ruminants. alors qu'on vient de nous dire que c'est interdit, j'ai beaucoup de misère avec ça.
Que, par curiosité, si on décide un jour d'arrêter l'industrie du porc au Québec, combien de temps ça prendrait pour que le cycle du phosphore rétablir l'équilibre?
En Bretagne, on a un moratoire depuis 1994 sur la production porcine. Croyant qu'on allait rétablir la qualité de la nappe phréatique, on n'y est pas arrivé. On a sensiblement les mêmes règles qu'ici, qui gèrent cette industrie-là. On a des systèmes de traitement aussi qu'on essaie d'implanter ici aussi présentement, et on n'y est pas arrivé. Que les contaminants peut-être tranquillement dans le sol, il y en a à peu près jusque pour 20 ans avant, il faudrait arrêter d'abord d'en mettre. Ça va prendre une vingtaine d'années avant de rétablir qu'on n'en est plus dans la nappe phréatique. Et comme dans les milieux où il y a la plus forte concentration de porcs au monde, le Québec en fait partie aussi, des municipalités comme Saint-Valérien-de-Milton ou Saint-Bernard-de-Beauce, où on a les plus fortes concentrations de porcs au Québec, on réussit à en ajouter. Je devrais vous dire que pendant le moratoire, qui n'en était pas un en particulier, on a réussi à augmenter de 710 000 porcs la production. Nous étions en moratoire. On nous faisait croire. Et ces augmentations de porcs-là, de production de porcs et de lisier, parce que la marde vient avec, ça s'est fait dans les zones qui étaient déjà dites en surplus. Et le phénomène ou le principe de zone en surplus a été abandonné dans le dernier règlement, celui de M. Mulcair qui a été mis sur pied, pour aller à une approche de ferme par ferme. Alors, ça veut dire que si vous voulez augmenter votre production, on va regarder ce qui se passe sur votre ferme. Autrement dit, ça veut dire que d'un côté de la rivière, on peut vous donner le droit d'en rajouter, et de l'autre côté, non. On ne regarde pas l'ensemble du territoire, mais on va y aller cas par cas, et basé sur des bilans phosphore. On s'est aperçu que le phosphore, la méthode qu'on a d'analyse de phosphore n'est pas fiable. C'est-à-dire que vous allez envoyer trois échantillons à trois laboratoires différents et votre résultat va être différent d'une place à l'autre. Alors, ce n'est pas une mesure fiable et c'est là-dessus qu'est basé tout le système de fertilisation ou d'élimination des lisiers. D'une façon ou d'une autre, il y en a deux fois trop qu'on en a, alors ça va être difficile de passer à travers.